L'Odyssée géographique, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire dédié à la géographie et à la géopolitique. Si vous êtes passionné par les voyages, l'aventure, la découverte de nouvelles cultures et l'actualité internationale, soyez les bienvenus à bord. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Odyssée géographique. Après avoir évoqué la semaine dernière les conséquences du tourisme de masse sur l'environnement et sur les populations, je vais aujourd'hui vous parler d'un sujet sensible et d'une brûlante actualité. Le sujet du jour est étroitement lié au conflit armé qui émaille le globe. Plus précisément, il s'agit de la fourniture des armements qui alimente ces conflits. L'industrie de l'armement est un secteur économique important, même si son poids exact est difficile à apprécier, étant donné qu'il s'agit d'un secteur d'activité particulièrement sensible. Les contrats d'armement sont fortement liés aux enjeux diplomatiques, et il n'est pas rare que les ministres des Affaires étrangères se transforment en commerciaux pour vendre des avions de chasse ou des navires de guerre. Vente d'armes, les liaisons dangereuses, c'est tout de suite dans l'Odyssée géographique. Attrapez votre chapeau et votre passeport, le voyage commence. Et tout d'abord, le poids de l'industrie de l'armement. Les entreprises liées à l'armement sont des sociétés prospères qui cherchent à croître dans l'ombre. À titre d'exemple, MBDA est une entreprise française qui est le leader européen de la fabrication de missiles. En 2016, les 100 premières entreprises du secteur de l'armement représentaient plus de 375 milliards de dollars de chiffre d'affaires. En 2018, la France était le quatrième vendeur d'armes au monde derrière les États-Unis, la Russie et le Royaume-Uni. Le secteur de l'armement est en plein essor en Russie, car les autorités russes ont décidé de renouveler massivement le matériel de leurs forces armées. Le leader mondial de l'armement est Lockheed Martin, qui frise les 45 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Les entreprises américaines du secteur bénéficient de la demande en armes du ministère américain de la Défense. Ce n'est pas une surprise, mais l'industrie de l'armement fonctionne en majorité par le biais de contrats gouvernementaux. On note aujourd'hui l'arrivée d'un nouvel acteur au sein de l'industrie de l'armement, qui est la Turquie. Cela reflète la volonté actuelle de la Turquie et de son président, Recep Erdogan, pour ne pas le nommer, de développer son industrie de l'armement afin de répondre à ses besoins croissants en armes et de moins dépendre de fournisseurs étrangers. Selon le ministère des Affaires étrangères français, le secteur de la défense représenterait 5000 entreprises et 400 000 emplois. L'industrie de l'armement, comprise dans le secteur de la défense, compterait 165 000 emplois directs. Toujours selon le Quai d'Orsay, l'industrie française concentrerait un quart des capacités du secteur au niveau européen. Sans chercher à faire de la publicité à ces entreprises, je vais vous donner les noms des principaux acteurs du marché français. Dassault Aviation, Naval Group, Airbus Group, MBDA, Nexter, Safran ou Thales. Comme vous pouvez le constater, certains de ces groupes sont connus pour leurs activités dans d'autres secteurs, comme l'aéronautique. À l'heure où la situation économique est encore difficile, le secteur de l'armement français ne connaît pas la crise. Entre 2011 et 2016, la France a enregistré une hausse de 45% de ses ventes d'armes. Initialement, cette industrie était censée fournir l'armée française. Néanmoins, les temps ont changé et le marché français ne suffit pas à rentabiliser cette production. D'où le poids pris par les contrats à l'exportation. Les exportations d'armes, un outil diplomatique. Les contrats d'armement, s'ils sont passés entre un État et une entreprise privée, sont chapeautés par l'État de l'entreprise en question. À l'instar de ce qui se fait dans l'industrie nucléaire, on peut parler de négociations d'État à État. Prenons le cas français. Pour l'État français, la conclusion d'un contrat d'armement répond à des considérations diplomatiques. Un contrat d'armement vient soutenir directement l'économie française et les entreprises titulaires du contrat. Il peut aussi permettre de soutenir un pays allié ou ami qui se bat contre un ennemi commun, comme l'État islamique. Un contrat d'armement peut aussi nuire à l'image de la France lorsque le pays client a un pouvoir autoritaire ou pratique la répression politique. Je reviendrai un petit peu plus loin sur le cas de l'Arabie Saoudite. Ne nous voilons pas la face. Plus le montant du contrat sera élevé, et moins le côté sulfureux du pays client sera pris en considération. Une exception notable est toutefois à mentionner, la vente de deux porte-hélicoptères Mistral à la Russie. En 2010, le choix de la Russie de faire l'acquisition de deux porte-hélicoptères est officiellement annoncé. En mars 2014, L'annexion de la Crimée par la Russie entraîne de nombreuses réactions au sein de la communauté internationale. Parmi celles-ci, des alliés de la France demandent l'annulation de ce contrat. S'ensuivent des mois de valses hésitations où les autorités françaises n'arrivent pas à statuer sur le sort de ce contrat d'armement. Il faudra attendre le début du mois d'août 2015 pour que l'accord d'annulation soit conclu entre les deux pays. La France remboursera près d'1 milliard d'euros à la Russie suite à cette annulation. Par la suite, la France cherchera à revendre les deux frégates qui ont été malgré tout construites. C'est finalement l'Égypte qui fera l'acquisition de ces deux navires pour grossir les rangs de sa flotte. En 2016, les deux navires, baptisés Gamal Abdel Nasser et Anwar al-Sadat, ont été livrés à la marine égyptienne. Je vous l'accorde, l'exemplarité démocratique de l'Égypte reste à démontrer. Les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite et la guerre au Yémen. Comme je vous le disais précédemment, les contrats d'armement répondent à des préoccupations étatiques. Aujourd'hui, les citoyens ne demandent pas ou peu de comptes au gouvernement et aux entreprises de la défense. Les sources d'information ne sont pas nombreuses. Le rapport au Parlement sur les exportations d'armement est en accès libre, mais il reste parcellaire. Les autres sources d'information sont les ONG, comme Amnesty International, qui demandent une position plus claire du gouvernement français sur la transparence des contrats d'armement. Le sujet est particulièrement prégnant avec l'Arabie Saoudite. Entre 2008 et 2017, les contrats d'armement entre la France et l'Arabie Saoudite ont représenté 12 milliards d'euros. Les Saoudiens représentent les seconds clients de l'industrie française de l'armement. Face aux dérives autoritaires du pouvoir saoudien, les autorités françaises choisissent de détourner pudiquement le regard. Suite à la mort du journaliste saoudien, Jamal Khashoggi, à Istanbul, le gouvernement allemand a choisi de stopper ses ventes d'armes à l'Arabie Saoudite. Selon différentes ONG, qui se basent sur une expertise de l'ONU, des armes vendues par la France seraient utilisées dans la guerre menée par l'Arabie Saoudite au Yémen. La France est pourtant soumise aux règles du traité sur le commerce des armes, qui prohibe la vente d'armes dans des situations où elles pourraient porter atteinte aux droits humains. Actuellement, nombreuses sont les voix qui s'élèvent pour demander la création d'une commission parlementaire permanente qui jouerait un rôle d'alerte lorsque des contrats enfreignent les règles du droit humanitaire international. Ainsi s'achève cette chronique dédiée aux contrats d'armement et aux dessous peu reluisants de cette industrie. La France est un poids lourd de l'industrie de l'armement. Au-delà de l'aspect stratégique de ces contrats, il convient de garder à l'esprit que les entreprises du secteur de l'armement font vivre des pans entiers de territoire. Même s'il s'agit d'un secteur économique au poids considérable, le manque de transparence autour des contrats d'exportation pose de véritables questions sur le plan démocratique. Le débat entre la réelle politique et le respect des droits de l'homme a encore de beaux jours devant lui. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle escale.